talmudique. Chaque année, l'Oxford English Dictionary choisit un mot pour qualifier les 12 mois écoulés. Mais pour la première fois, le dictionnaire renonce au choix d'un seul mot et en propose plusieurs. Le dictionnaire Robert et Loulipo ne sont pas en reste et nous proposent de jouer à imaginer des mots-valises correspondant aux situations inédites que nous avons vécues tout au long de cette année si particulière. Et ils donnent, pour exemple, « mascaradé », qui désigne le fait de poser son masque sur un comptoir pour boire un verre, ou encore parmi de nombreux autres, « Covid poche », qui désigne la corbeille où l'on pose ses clés, son masque, son gel hydroalcoolique en rentrant chez soi. Les Allemands possèdent une tradition non seulement du mot de l'année, mais du Unwort de l'année, le mot le plus terrible, le plus insupportable, le plus non-mot de l'année, c'est-à-dire le plus préjudiciable pour la société. Par exemple, en 1991, Ausländerfrei, sans étrangers. En cette année 2021, c'est aussi l'occasion de revenir sur des mots marquants de ces deux premières décennies du XXIe siècle. Au-delà de l'aspect ludique, sociologique, politique et poétique de ces choix, ces explosions de créativité lexicale témoignent de l'importance du langage pour les hommes et soulignent à quel point les mots ne sont pas anodins pour la construction et la survie de toute société. Ce que déjà le texte biblique soulignait en faisant entrer Noé, sa famille et tous les animaux dans une arche, Teva, un vocable qui en hébreu signifie le mot, une façon de dire que l'humanité ne peut être sauvée qu'en entrant dans un mot aux dimensions d'une langue qui possède des fenêtres sur le monde, dit le texte biblique, fenêtres du désir et de la rencontre. Des mots comme des fenêtres qui ouvrent le monde, à d'autres mondes, à d'autres éclats, à d'autres lumières. Des mots fenêtres qui ouvrent aussi à l'intérieur de l'homme, à son intimité, à son mystère et au mystère du monde. Et peut-être dès lors, ne serait-il pas incongru de proposer, dans ce cortège de mots et de non-mots de l'année, un mot plein de mystère, le mot mystique, que certains rejetteront d'emblée, car trop plein d'irrationnel et toujours au risque de basculer dans la tromperie et la mystification, alors que d'autres, au-delà de l'affirmation ou de la négation de la foi, adouberont en quête d'une spiritualité purement contemplative. Et pour aborder ces questions, n'était-il pas idéal de rencontrer un homme, écrivain, traducteur et éditeur, passionné de littérature, de philosophie, d'histoire, de politique, d'architecture et de poésie, passionné par la vie des mots, ces passants mystérieux de l'âme, selon la belle expression de Victor Hugo. Michel Valency, bonjour.
Bonjour Marc-Alain.
Passion des mots qui se traduit depuis maintenant plus de 35 ans au cœur de votre maison d'édition, les Éditions de l'Éclat, dont la mystique justement en est, d'une certaine façon, la marque des commencements, la pulsation et le rythme des publications au fil des années en témoignent. Ainsi vient de sortir un ouvrage exceptionnel par son ampleur et son importance, « Lumière de l'intellect », Or Asserel en hébreu, un livre de Rabbi Abraham Aboulafia, traduit par Michael Seban. Rabbi Abraham Aboulafia, un auteur qui vous accompagne depuis le début de votre aventure éditoriale, puisque son ouvrage, « L'épître des sept voix », fut parmi les deux premiers titres que vous avez publiés en 1985. Qui est Abraham Aboulafia et pourquoi Abraham Aboulafia? En quoi est-il si important pour vous? Et pourquoi peut-être peut-il nous aider à comprendre ce qu'est la mystique en général et la mystique juive en particulier, Michel Valency.
Ça fait beaucoup de questions en même temps. Je vais essayer d'y répondre en commençant par la deuxième, par exemple. Pourquoi Abraham Aboulafia? Effectivement, Patricia Farhadi avait retenu ce nom qu'elle avait croisé dans un livre de Guy Cazaril et puis bien entendu dans les grands cours en analytique juive de Gershom Scholem pour un personnage de son roman L'Esquive qu'on a publié effectivement en 85. Et puis, on cherchait un peu ce qu'il avait écrit, quel livre de qu'est-ce qu'on pouvait lire de lui, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun livre d'Abraham Aboulafia publié, pas même en hébreu. Enfin, s'il y en avait un, il y avait un commentaire sur le Sefer Yetzirah, mais c'est quasiment le seul. Et c'est comme ça qu'on est parti à la recherche des écrits d'Aboulafia, donc il existait beaucoup de manuscrits, énormément de manuscrits. Et puis une lettre qui avait été éditée au XIXe siècle par Aaron Jelinek, l'arrière-grand-père de Elfried Jelinek, prix Nobel de littérature autrichienne. Et donc cette quête des manuscrits et des livres d'Aboulafia a abouti à cette première édition de cet ouvrage, l'Épître des sept voix en 85. Mais déjà à l'époque, on avait fait l'acquisition d'un microfilm du Or Asserel, donc ce Lumière de l'intellect qui sort aujourd'hui, donc 35 ans après, 36 ans après, des premières démarches pour essayer d'en donner une édition française. Ça, c'est donc sa présence au sein du catalogue. Maintenant, qui est Abraham Mafia? C'est un personnage très extraordinaire, à la fois du point de vue de sa biographie, qui relève quasiment de la légende, et aussi du point de vue de sa pensée. Donc, il est né à Saragosse en 1140, 5000 du calendrier hébraïque, et il va traverser la Méditerranée, errer de pays en pays, en Italie, en Turquie, en Grèce, jusqu'en Terre Sainte, où il voudra partir à la recherche du fleuve Sambation, et il reviendra ensuite à Patras, où il se marie, repart en Italie, étudie le guide des égarés à Vérone et retourne en Espagne. Et le grand événement de sa biographie, c'est ce souhait de rencontrer le pape à Rome, à qui il écrit en lui disant « Voilà, je suis Abraham Mafia, il faut qu'on se voit et il faudrait que vous arrêtiez de persécuter les Juifs. » En gros, c'était sa démarche. Le pape reçoit cette missive et dit « Si un certain Mafia se présente aux portes de Rome, vous le prenez et vous le brûlez. » Comme ça, la question est réglée et on n'en parlera plus. Mafia se rend à Rome. Il a une vision mystique le jour de son arrivée à Rome. Le lendemain matin, il descend au Vatican. Et là, quand il demande à rencontrer le pape, on lui dit que c'est impossible parce que le pape est mort dans la nuit de son arrivée. Une crise d'apoplexie. Bon, ça fait partie effectivement de sa biographie. Est-ce que ça fait partie de sa légende? On a du mal à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la légende, de l'ordre de l'imaginaire, de l'ordre de la réalité. Ce personnage brouille des pistes. Il brouille des pistes. La piste, en tout cas, qu'il va suivre, lui, quittant Rome, c'est celle de la Sicile, où il va se rendre. Et c'est là où il passera une grande partie de ses années après 1280, donc date de la fausse rencontre, de la non-rencontre avec le pape. Et c'est là qu'il écrira ce « Or acere, lumière de l'intellect », qui est d'un de ses livres les plus difficiles, mais aussi les plus importants. Parce que c'est une véritable théorie du langage, mais ça, on en reparlera plus tard. En quoi est-il si important pour nous? Il est important pour nous parce que, justement, il établit ce lien entre mystique et rationalité, mais je crois que ça, c'est une grande discussion qui est essentielle et qu'on retrouve, finalement, à l'intérieur du catalogue des éditions sous différentes formes. Que ce soit dans le cadre de la mystique juive, que ce soit aussi dans le cadre de la pensée universelle.
Abou Lafia inaugure les éditions de l'Éclat avec l'épître des sept voix, nous venons de le voir, mais il va aussi, au fil du temps, en être le pilier avec d'autres publications. Il y eut d'abord le projet d'une édition complète des œuvres d'Abou Lafia, ou du moins de ses œuvres principales, sous la direction de feu Charles Mopsic, Michel Valency. Alors je précise pour les auditeurs que nous sommes en liaison téléphonique et qu'on vous entend peut-être pas très bien, mais c'est fait exprès dans la mesure où la Kabbale, disait Rabbi Abraham Abou Lafia, est une théologie chuchotée pour que seuls ceux qui veulent véritablement comprendre tendent l'oreille et puissent entendre ses secrets.
Bon, ça c'est un projet auquel Charles Mopsic et moi-même et quelques autres personnes autour de nous ont pu rêver. C'était très compliqué à mettre en place. La seule chose qui reste de ce projet, c'est une liste établie par Moshe Hidel et qui figure dans les archives des éditions de l'Éclat. On a la tomaison, disons que ce que chaque tome des œuvres complètes doit contenir, mais pas la moindre ligne n'a été écrite de ce projet et il est resté dans les limbes. Enfin, effectivement, il est présent, Abou Lafia est présent à la fois à travers ce premier titre et puis de cette voix, puis ensuite il y a eu une édition d'un texte de Eliot Wolfson, toujours à l'initiative d'ailleurs de Charles Mopsic sur Abraham Abou Lafia, kabbaliste et prophète, paru en 99, je crois. Et puis très récemment, l'édition des cours de Gershom Scholem sur Abraham Abou Lafia, des cours tenus en 1964-65, qui étaient les dernières années d'enseignement de Scholem à l'Université Hébraïque de Jérusalem.
La publication du Or Acerel, c'est ce livre qui est publié ces jours-ci, Lumière de l'intellect, Lumière au singulier, fut une véritable aventure. 5 années de traduction, un texte établi à partir de nombreux manuscrits, une édition bilingue compliquée à réaliser, des notes et un appareil critique considérable qui font de cet ouvrage à la fois un monument et un événement, Michel Valency.
Oui, la publication du Horace Herrel, comme je l'ai dit, les premiers projets ont commencé il y a 35 ans. Enfin, on avait à l'époque fait l'acquisition d'un des microfilms du Horace Herrel, mais il en fallait plusieurs. On avait cherché différentes personnes capables, enfin susceptibles en tout cas de vouloir faire ce travail et on n'avait trouvé personne. Jusqu'à notre rencontre, il y a 5 ans de cela, avec Michael Seban, qui a eu le courage, l'audace, l'inconscience de dire oui à ce projet d'édition. Et c'est vrai que Michael Seban a fait un travail extraordinaire, à la fois d'établissement du texte, puisqu'il a travaillé sur plusieurs manuscrits, mais également de commentaires à travers un appareil de notes très conséquent. Il y a 1741 notes, si je me souviens bien, qui sont indispensables pour la compréhension et pour la lecture de ce texte difficile. Difficile, mais enthousiasmant, par ailleurs, quand on commence à rentrer dans la langue d'Aboulafia et dans les problématiques qu'il aborde. Les manuscrits, il y a 26 manuscrits de Horace Herrel. Donc l'édition que nous proposons a été établie à partir de 3 manuscrits et non pas des 26, ce qui aurait dû se faire dans le cadre d'une édition scientifique. Mais l'édition que nous proposons n'est pas une édition scientifique, c'est une édition à hauteur d'homme. À hauteur d'homme, et cet homme, c'est Michael Seban. C'est-à-dire qu'il a été, tout seul, même s'il a été aidé par un certain nombre de personnes autour de lui, et en particulier Bernard Loupias, qui était très proche de lui pendant tout ce travail de traduction. Il s'est vraiment coltiné le texte au mot à mot, et nous avons suivi ce travail de traduction avec ses hauts et ses bas, ses craintes et puis ses enthousiasmes dont j'ai parlé. En tout cas, c'est la première fois que ce texte est édité sur la base de plusieurs manuscrits. Il existe une édition en hébreu qui a été faite par Amnon Gross, mais qui est malheureusement assez fautive, bien que le projet d'Amnon Gross d'édition des œuvres d'Aboulafia est tout à fait intéressant et important. Mais on ne sait pas très bien comment il travaille, on ne sait pas sur quel manuscrit il se base, et on y trouve de très grosses erreurs que la consultation de différents manuscrits aurait pu permettre de corriger. Et donc finalement, ce qu'on espère donner aujourd'hui, c'est une édition à la fois fiable du texte hébreu, et puis de sa traduction en vis-à-vis sur un système de 2 colonnes.
Et ça a été très compliqué de mettre en place cette édition bilingue, Michel Valency.
Oui, il était indispensable de donner aussi le texte hébreu, bien qu'effectivement le livre peut tout à fait être lu par quelqu'un qui n'est pas un hébraïsant. Mais bon, d'abord parce qu'il fallait établir ce texte, et à partir du moment où Michael Seban l'avait établi, il était évident aussi de le publier en vis-à-vis de la traduction. Et puis, je crois que cette présence de la langue hébraïque, de ces lettres, de la forme de ces lettres, est importante pour ce texte qui entre dans la langue, qui est au cœur de la langue. C'est tout le projet de cette lumière de l'intellect, à savoir comment, à travers la langue, l'homme intelligent, l'homme qui intellige, l'homme nourri par cette lumière de l'intellect, peut avoir une connaissance du monde. Et comment tout le monde est contenu dans la langue. Et donc, cette langue, il fallait aussi la montrer. Il fallait aussi la montrer, bien entendu, pour ceux qui peuvent la lire et la déchiffrer en même temps qu'ils déchiffreront la traduction française, mais aussi pour ceux qui, pour le moment, n'auront accès qu'à une partie du volume, à savoir la traduction française, et son important appareil de notes et appareil critique.
Cette mystique du langage d'Aboulafia est absolument passionnante. Vous dites qu'en passant par la langue, et en particulier par la langue hébraïque, on a accès au monde. Mais je crois que ce qui fait la spécificité et peut-être l'universalité de la pensée d'Aboulafia, c'est qu'il considère que toutes les autres langues, quel que soit l'espagnol qu'il parlait, le latin, l'italien, le grec, sont des langues qui nous donnent aussi accès au monde. Et les nombreux jeux de mots qu'il fait sur l'hébreu, avec des techniques herméneutiques que nous verrons plus précisément la semaine prochaine, il les applique aussi aux autres langues. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est à la fois rare et surtout éminemment audacieux, Michel Valency.
Oui, ça c'est vrai que c'est une des découvertes de lumière de l'intellect. C'est ce jeu permanent à la fois entre l'hébreu, le grec, effectivement l'espagnol et aussi l'italien. Enfin, toutes ces langues sont mêlées dans une arithmétique de la langue, puisque Aboulafia va se livrer à ce qu'on appelle des gematrias, c'est-à-dire
des jeux de valeurs numériques.
Sur des jeux sur les valeurs numériques des mots, à la fois sur les mots hébreux, mais aussi sur la valeur de la transcription en lettres hébraïques d'un mot grec ou d'un mot espagnol ou d'un mot italien. Et là, on a vraiment, enfin, on le voit jongler avec les mots, jongler avec les langues, et se faufiler finalement entre les sens, parce qu'en fait, et c'est ça qui est très très étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, le sens du monde est dans la forme de la langue, mais pas forcément dans le sens des mots. Enfin, c'est très subtil et très curieux, et c'est pour ça que le livre est difficile, que le livre est complexe, et qu'on s'y perd, mais on s'y perd avec bonheur, si je peux m'exprimer ainsi. On s'y perd avec enthousiasme, on s'y perd parce qu'il nous fait comprendre ce qu'est le monde. Et ça, je veux dire que c'est une expérience de lecture très étonnante. C'est probablement pourquoi Gershom Scholem, qui en avait lu des textes, a pu dire que non seulement Abraham Aboulafia était un des kabbalistes les plus importants, mais aussi que le Hor Hesserel était un de ses textes les plus importants, dont il avait, dans une lettre de 1925 à Bialik, recommandé absolument l'édition. Et il aura fallu finalement attendre l'année 2021 pour que cette édition paraisse. Et je dois dire que de cela, j'en suis très reconnaissant à Michael Sevan d'avoir pu porter ce projet aussi difficilement pendant 5 années. Et puis, d'une certaine manière, oui, une certaine fierté de pouvoir le proposer à la lecture. D'abord, le silence du pas. Les cailloux roulent sans bruit, les vagues se fracassent sur des rochers de feutre. L'homme n'entend plus que le battement de son cœur. Il s'affole et va vers l'immobilité. On dit que le cœur danse une dernière fois avant de mourir. L'homme écoute son cœur danser. Le silence tombe comme une sentence, un rideau sur la mer. Le ciel a rejoint l'eau et l'horizon tient dans le creux de la main. Un décor se crée à la mesure de ce cœur qui s'éteint. L'homme lève la main pour saisir dans sa paume les rochers. Il voudrait vider le paysage, qu'il devienne parchemin pour y tracer son dernier livre. Moi, Abraham Aboulafia, à ce jour, je rejoins le silence. Cette main n'écrira plus. Les traces perdues se confondront avec la mer et le sable. Sans bruit, toujours le monde continue le livre. Il regarde ses mains. La droite appartient au prophète, la gauche appartient à l'homme. Seul juif de cette île minuscule, j'ai regardé partir les bateaux. Maintenant, il faut poursuivre le voyage. Je m'étais arrêté trop longtemps. Adonai, tu as fait pousser l'encre et sur l'encre j'ai grandi. Mais qui a écouté mes paroles? Qui a lu mes livres? Adonai, ton nom est écrit sur les pierres du chemin et qui y pose le pied est foudroyé. Et qui y pose le regard disparaît. Pourquoi m'as-tu donné des yeux? Pourquoi as-tu tracé mon chemin dans les sentiers étroits du secret? Et qu'est-ce qu'un secret qui ne se partage pas?
Ce très beau texte que vous venez de lire, Michel Valency, sur une musique de Philippe Glass intitulée Façade, est le début de la vie imaginée d'Abraham Aboulafia, philosophe et prophète, que Patricia Farazzi avait écrit pour accompagner l'épître de cette voix dont nous avons parlé au début de cette émission. Pourquoi Michel Valency était-il important d'accompagner un texte de mystique par un texte de fiction?
C'était un projet à la fois de la collection Philosophie imaginaire, puisque ce livre paraît dans une collection qui s'intitule Philosophie imaginaire. C'était aussi peut-être le projet lui-même de la maison d'édition, c'est-à-dire de faire se rencontrer des choses issues d'univers différents, que ce soit philosophie et fiction, mystique et imaginaire. C'était au cœur, effectivement, oui, du projet éditorial des éditions de l'Éclat, tel que nous l'avions conçu avec Patricia Farazzi il y a 35 ans maintenant. Et il était naturel que cette vie imaginaire accompagne l'épître des sept voix, texte d'Aboulafia, qui était accompagné aussi d'une introduction de Shmuel Trigano qui employait un autre ton, effectivement, pour présenter Abou Dafia et pour dire son importance, mais qui finalement complétait ce regard imaginaire porté sur cet homme hors du commun.
Alors les deux textes qui accompagnaient cette épître de cette voix avaient quelque chose malgré tout en commun, malgré le ton différent, c'est que les deux insistaient sur la question du langage, et du langage comme rapport au monde, comme vous l'avez dit. Et dans ce texte, par exemple, Patricia Farazzi met en scène une autobiographie d'Abraham Abou Dafia en 22 éclats, comme les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. N'est-ce pas une façon de dire et de souligner que pour Abou Dafia, création, révélation et prophétie sont des phénomènes du monde du langage, la création en tant qu'acte d'écrire du divin, dans laquelle l'écriture façonne la matière de la création, comme le disait Scholem à propos d'Abou Dafia, Michel Valency.
Ce que veut dire la vie imaginaire, à travers ces 22 éclats de vie, c'est ce que ne peut pas dire la biographie. Ce que dit la biographie, c'est le factuel d'une existence. Mais il faut arriver à travers un langage imaginé, imaginaire, à lui donner sa véritable substance qui est cachée finalement par le fait biographique qui va s'imposer au lecteur. Et donc, oui, c'est ainsi que le texte de Patricia Farazzi était conçu, 22 éclats d'une vie, 22 lettres de l'alphabet. Et évidemment, oui, cette idée que l'écriture façonne la matière de la création est centrale, puisque il est question non seulement des mots, mais des lettres elles-mêmes qui constituent ces mots, qu'elles soient consonnes ou voyelles, les petits points, comme les nekudot qu'on met sous les consonnes en hébreu, la forme des lettres elles-mêmes, le placement de la voyelle, tous ces éléments concrets de l'écriture donnent idée de ce qu'est la création et de ce qu'est le monde.
Je pense, Michel Valency, encore une fois, à Gershom Scholem et à l'un de ses écrits que vous avez aussi publié aux éditions de l'Éclat, les 10 propositions anhistoriques sur la Kabbale, un vrai petit bijou. Scholem écrit que la Kabbale protège mieux les secrets en les énonçant plutôt qu'en les taisant. Ou encore, publier les œuvres maîtresses de la littérature kabbalistique est la meilleure garantie de son secret. N'est-ce pas aussi justement le rôle de la littérature, l'art de dire sans dire, Michel Valency?
Oui, publier les œuvres maîtresses de la littérature kabbalistique est la meilleure garantie de son secret, ça fait partie des grands paradoxes de Gershom Scholem qui n'en manquait pas à tout point de vue, que ce soit dans ses recherches, dans ses relations, dans sa vie privée, etc. Le secret ne se dévoile qu'à la, comment dire, là on va reprendre le texte d'Abou Dafia, le secret ne se dévoile qu'à la lumière de l'intellect, qu'à la lumière de l'intelligence. Et c'est cette intelligence qui permet de le pénétrer et, le pénétrant, de le conserver d'une certaine manière. Il y a dans cette formulation de Scholem et dans la formulation d'Abou Dafia aussi une défiance, une méfiance ou une critique d'une intelligence qui ne serait pas accompagnée d'une lumière, si vous voulez. Abou Dafia, dans le début de son texte, Hora Sechel, dit à quel point il ne croit pas du tout à ce qu'il appelle la foi des imbéciles. C'est la formule qu'il emploie, la foi des idiots, la foi des imbéciles. C'est-à-dire une foi qui n'est pas accompagnée par une connaissance, par une réflexion, par une intelligence des choses. Et effectivement, le secret d'une foi qui serait livrée à la foi des imbéciles reste entièrement scellé. Et quelques publications que ce soit ne permettra pas de le pénétrer. Ce qu'il faut, c'est, oui, effectivement, y entrer avec cette lumière de l'intellect dont parle Abraham Abou Dafia.
Cette relation entre Kabbale et littérature ne s'est-elle pas concrétisée, Michel Valency, humainement, aussi dans l'amitié entre les deux auteurs dont vous êtes l'éditeur, Gershom Scholem et Walter Binyamin, à qui Scholem dédicassa en 1946 son livre « Les grands courants de la mystique juive » en une formulation éloquente, je cite, « À la mémoire de Walter Binyamin, 1892-1940, l'ami de toute une vie dont le génie a uni la pénétration du métaphysicien, le talent exégétique du critique et l'érudition du savant, mort à Portbou, en Espagne, sur le chemin de la liberté. » Michel Valency.
Oui, cette amitié entre Scholem et Walter Benjamin fait partie de ce qu'on avait appelé d'ailleurs avant leur naissance les amitiés stellaires, puisque la formule et de Friedrich Nietzsche. Oui, c'est une amitié qui est une amitié du partage, de l'échange permanent, et puis qui se fait sous le signe de l'intelligence et sous le signe de la connaissance. Faire de Walter Benjamin un kabbaliste, je n'irai pas jusque-là, et en plus, ce n'est pas du tout le propos. L'échange entre les deux est très, très étonnant, parce que Scholem est à sa table, avec ses manuscrits, avec ses textes. Il élabore une pensée de la kabbale, et ce qu'il transmet à Walter Benjamin, d'homme à homme tant qu'ils seront côte à côte, et puis et dans la correspondance à partir du départ de Scholem en Palestine en 1923, tout ce que Scholem va transmettre à Benjamin le passera dans sa moulinette, et effectivement il en fait une pensée absolument propre, mais qui est, pour ceux qui connaissent un peu les deux œuvres, qui est entièrement nourrie par ce que lui fournit Gershom Scholem comme grain à moudre. Et là aussi, le langage est au cœur de leur amitié, de leur relation et de leur propre pensée. L'un et l'autre le traitent de manière différemment, mais je crois que là aussi, un peu comme mystique et rationalité, il y a une lecture dialectique qu'il faut avoir de la propre relation que les deux œuvres entretiennent l'une avec l'autre. Et ça, c'est la grande force de l'un et la grande force de l'autre.
Tout à fait. Alors j'ai l'impression aussi que Aboulafia a été au cœur de leur amitié. Aboulafia, ce mystique du langage dont nous avons parlé aujourd'hui, parce que je pense à une des techniques d'interprétation d'Aboulafia, qu'on approfondira la semaine prochaine avec Michael Seban, la technique de ce qu'on appelle le tserouf, c'est-à-dire l'anagramme. Et je pense à ce texte de Walter Benjamin sur l'ange, où il a écrit et travaillé sur les anagrammes de son nom. Et Scholem ensuite en a fait un livre qui s'appelle « L'ange de Walter Benjamin », où il travaille sur cette question justement de l'anagrammatisation du langage, cette permutation permanente, ce tserouf en hébreu, cette dynamique interne au langage qui fait que il y a quelque chose qui tourne en permanence. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi que entre Walter Benjamin et Scholem, Aboulafia serait un des liens forts qui les a unis, Michel Valencien?
Oui, ça je crois. Pour ce que j'en sais, en tout cas, je pense pas que Benjamin ait cité même le nom d'Abraham Aboulafia, ou peut-être je me trompe, mais je ne crois pas qu'il l'ait cité. Par contre, il est nourri par ça. Et Scholem découvre Aboulafia très jeune, dans les années 20, quand il va à Munich consulter les manuscrits qui se trouvent sur place à la bibliothèque. C'est là qu'il lira d'ailleurs le Or HRL, donc Lumière de l'intellect. Et c'est la période pendant laquelle ils sont très proches l'un de l'autre, et même ils vont cohabiter à Berne. Et donc c'est vraiment la période où ils échangeaient tous les jours sur leur lecture, sur leur découverte, sur leur pratique littéraire. Et donc Scholem hésite encore entre la mathématique et la mystique. Benjamin, avec sa foule, Ferrer va d'un sujet à l'autre, mais je crois que oui, je crois que ce jeu avec le langage est quelque chose qu'ils ont en commun et auquel ils ont chacun donné une forme très, très particulière.
Dans mon introduction, Michel Valency, je parlais de mystique au risque de la mystification. J'ai l'impression, en vous écoutant, que la force de l'œuvre d'Aboulafia vient justement d'un travail de démystification, d'une autre façon de définir la mystique, une façon de remettre en question l'opposition irréductible de la rationalité et de la mystique. Michel Valency.
Ben écoutez, c'est le cœur de l'œuvre d'Aboulafia, c'est-à-dire d'avoir pu harmoniser, je ne dis pas concilier, mais harmoniser au sens d'une harmonie des contraires, une pensée mystique absolue, d'un très grand élan mystique, avec la pensée maïmonidienne. Pour Aboulafia, le grand penseur du judaïsme, c'est Maïmonide. Le grand rationaliste Maïmonide est le maître et le modèle pour Aboulafia. Et il arrive justement à concilier dans son raisonnement à travers les mots l'œuvre de Maïmonide, le Guide des égarés est cité sans arrêt dans l'ouvrage, avec des interprétations qui relèvent strictement de la mystique et de la kabbale. Alors oui, ces deux aspects s'harmonisent dans un mouvement dialectique. Je reviens à Gershom Scholem qui disait c'est pas dans la pensée marxiste que j'ai appris la dialectique, c'est dans les textes juifs. Et effectivement, c'est dans le judaïsme que ce mouvement dialectique prend une forme d'une très grande richesse et puis d'un très grand enseignement. Alors, Aboulafia, si vous voulez, si on avait pu lire Abou Lafiav avant la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, puisqu'aucun texte n'était disponible, sinon à l'état de manuscrit, on aurait peut-être eu, au fil des siècles qui se sont passés, entre le moment où il a pu écrire et le moment où on commence à pouvoir le lire, on aurait pu avoir une vision d'un judaïsme relativement différent de celui qu'il a pu définir au fil du temps, où effectivement on pense le judaïsme un peu comme toutes les formes de communauté, à savoir où la mystique s'oppose à la rationalité. Et donc oui, il y a Maïmonide d'un côté et puis il y a la Kabbale de l'autre. Abou Lafia est le cœur d'une réconciliation entre la mystique et la rationalité. Et c'est là toute son importance et c'est là toute la force qu'il nous donne pour penser ce monde.
Merci Michel Valency pour cette riche et belle conversation. La semaine prochaine, je recevrai Michael Seban, le traducteur du Hora Sechel, avec qui nous entrerons dans les arcanes de cette métaphysique du langage au cœur de la mystique d'Abraham Abou Lafia dont nous avons parlé aujourd'hui. Je rappelle le titre complet de l'ouvrage qui a été l'occasion de la rencontre d'aujourd'hui, Rabbi Abraham Abou Lafia, Lumière de l'intellect, Hora Sechel, texte hébreu établi, traduit et annoté par Michael Seban, paru aux éditions de l'Éclat. Merci encore Michel Valency.
Merci à vous, Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin. À la prise de son aujourd'hui, Philippe Mercher. À la réalisation, Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, sur lequel vous pouvez aussi podcaster les émissions ou les réécouter en replay. Coltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Thank you.